Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est chaque soir un entretien qui dure une heure, et ceci avec les artistes qui sont dans l'actualité culturelle, ce soir avec Claude Lévesque.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux t'appeler,
par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans cet moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
J'aime beaucoup imaginer cette scène, racontée par Michel Nourizzani au début de ce livre, des dizaines et des dizaines de cartons d'invitation aux expositions, étalés au sol, soumis au courant d'air chaotique, soumis à un regard presque amoureux. Tous ces bouts de cartons découpés qui disent « on était là, et puis là, et puis là, est-ce que tu t'en souviens ? On a fait ça, on a exposé ceci, on avait choisi cette image, on n'était pas d'accord sur celle-ci. » J'adore imaginer cette scène qui se tient à la croisée du domestique presque de l'histoire de l'art, car il ne s'agit pas seulement de trier des archives, il s'agit d'y lire un parcours d'artiste, un chemin de vie et son inscription progressive dans la scène culturelle mondiale. Et ils ont la puissance, ces petits cartons avec leurs dates et leurs adresses, d'activer le désir d'y avoir été aussi. Claude Lévesque, ce catalogue raisonné des cartons d'invitation est publié par Marval rue Visconti, ça donne lieu à une exposition en ce moment à Paris, à la galerie Mouvement jusqu'au 17 novembre, c'est le prétexte de notre invitation ce soir. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Je vais citer deux autres grandes publications très belles. Une monographie parue chez Kamel Menour et un très beau livre qui s'appelle Tombeau, qui est publié chez Analog. C'est une variation autour de vos œuvres et surtout une mise en correspondance entre des images de vos œuvres et des citations de textes. On y viendra tout à l'heure dans l'entretien. Et c'est proposé par Benoît Viguier. Mais d'abord, je vais me promener avec vous dans cette collection de cartons d'invitation. 1986. Meubles, Galerie Philippe Casini, Paris, du 13 septembre au 31 octobre. Meubles avec un point, le titre dans sa neutralité, sa froideur même, figure sur le carton comme un logo publicitaire, une image de marque, établissant une tension avec les œuvres très personnelles, chargées d'affect, de souvenirs, très marquées par la dimension autobiographique. C'était chez Philippe Casini, que je connaissais depuis un moment. Il s'intéressait à mon travail. J'ai exposé chez Casini 4 ou 5 pièces, pas plus. À l'époque, il n'y avait pas de problème de concurrence, d'exclusivité. Casini avait souhaité m'exposer, Éric Fabre était d'accord, et puis voilà. 1992, jour de chance, Association pour l'art contemporain, à Pâques, Nevers. Du 10 octobre au 19 décembre. Là, il y avait de l'argent pour le carton, et ce n'est pas toujours le cas. En couverture, un horrible rond-point, bien caractéristique de la zone commerciale. J'adore les zones commerciales. Les zones commerciales, on connaît, c'est ce qu'il y a à l'entrée des villes pendant des kilomètres, un étalage consumériste qui fait partie de la vie quotidienne des gens. Le carton d'invitation était accompagné d'une sorte de petit livret en plusieurs volets qui montre en couleur mon intervention. On le donnait comme un souvenir aux gens qui venaient et on l'envoyait aussi avec le carton d'invitation. J'aime beaucoup que les gens repartent avec un petit souvenir leur permettant de revisiter l'exposition sans y revenir. 1994. Appartement occupé, Emmeltrop, Bourges, du 12 février au 23 avril. Le carton d'invitation montre une image assez trouble. Je crois que j'ai demandé à un gamin du quartier qui passait de faire une photo sans poser la question du cadrage, d'enregistrer simplement ce qu'il y avait. L'image est très belle parce que cette façade de l'immeuble, en face de l'appartement que j'occupais, d'un seul coup, bascule. En bas, il y a une sorte de guirlande d'ampoules qui a été mise négligemment dans les arbres. Aucun effort n'était fait pour la vie des gens. Ce vestige de Noël reflète ça. C'est sinistre. Ces barres d'immeubles n'existent plus aujourd'hui. Elles ont été rasées. 1997, trouble. Kassler Kunstverein, Kassel, Allemagne. Du 8 mai au 15 juin. Le mot est écrit plusieurs fois par ma mère. C'est une punition que je lui ai infligée. Claude éclate de rire et moi aussi. Elle écrivait toujours avec un stylo très fin, jamais au crayon. 2000. Le droit du plus fort. Agence d'art contemporain, Stéphane Ackermann, Luxembourg. Du 23 septembre au 18 novembre. En fait, on allait avec Elia Noroto, une sorte de supermarché de l'automobile pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle. On rigole, comme souvent avec Elie. On sort des pots d'échappement. Il y en avait des centaines de toutes sortes. On choisit ceux qui convenaient. On fait des photos, comme celles qui figurent ici. Et on continue. Et à un moment, dans le magasin, on se fait une annonce. Le Concorde vient de se cracher à côté, à Gonesse. Quand on est sorti sur le parking, il y avait une colonne de fumée. Des ambulances, la police partout. On était coincés. La photo, d'Elie tenant le pot d'échappement, est détourée. Et c'est pas à cause du crash du Concorde qu'Elie a l'air sombre. Non, non, c'est juste le hall de l'été. 2001, Ende, Galerie Yvon Lambert, Paris, du 20 octobre au 1er décembre. C'est un carton petit, tout simple, format carte de crédit. Comme je rentrais chez Yvon Lambert, qui était une galerie historique, importante, j'avais envie d'un contrepoint. Claude éclate de rire. C'est rigolo, non ? Et moi, j'avoue que j'aurais pu lire la totalité du livre comme ça, Claude Lévesque, tellement je le trouve tendre. Je disais tout à l'heure que j'adore cette image, vous imaginant comme ça, devant plein de cartons d'invitation qui retracent à la fois votre vie et votre parcours d'artiste, et discutant, parce que je trouve que c'est vraiment exactement à la frontière de quelque chose de très intime et de quelque chose qui est votre propulsion dans la scène internationale de l'art. Comment vous l'avez vécu, vous, ce moment de redécouverte de ces archives ?
Mais il fallait donner un sens un peu à cet archivage, enfin, à ce catalogue raisonné de toutes les invitations d'expos monographiques. Donc c'était pas facile parce que il fallait que ça parle aux gens, donc donner quand même à chaque fois une indication. Faire en sorte que ce soit un petit peu amusant. Moi, j'aime beaucoup c'est une façon de parler, mais enfin, c'est vrai que cette espèce de constat de l'image qui a servi pour le droit du plus fort au moment où le Concorde crash, c'est un pur hasard complètement incroyable. On pourrait penser vraiment que c'est monté toute pièce, mais vraiment, on l'a vécu comme ça, quoi. Le hasard de la photo un peu sous-exposée et tout ça, enfin c'est quand même, donc il y a quelques anecdotes comme ça qui rendent un peu vivant la présentation de ces cartons, puisqu'à chaque fois il y a une histoire. Bon, déjà pour expliquer un peu l'exposition, plus souvent les cartons sont énigmatiques, représentent pas ou très peu, voire pas du tout ce qui va être visible. Ça donnera une indication, ça fera partie d'un élément d'ouverture, mais sans plus. Alors, donc il fallait un peu les mettre en contexte. Donc avec Michel, on a fait ça à la campagne l'été dernier. Il y avait pas mal de vent, donc à un moment donné tout s'est envolé, tous les documents sont envolés. Donc Michel et moi, on a trouvé ce qu'on avait sous la main, des pierres, des bouts de bois pour pouvoir stabiliser tout ce tas d'invitations. Et puis après, on a quand même beaucoup travaillé là-dessus. Hein, déjà, fallait toutes les retrouver.
Ce qui n'était pas forcément toujours dans vos propres archives. Parfois, il a fallu aller dans les centres, demander s'ils avaient gardé des cartons, que vous aviez tout gardé.
Parce qu'on n'a pas tout retrouvé. Mais, mais on avait quand même la majorité des cartons d'invitation qu'Elie a retrouvés assez facilement quand même. On avait un archivage de ça.
Quand vous regardez ces cartons d'invitation, est-ce que systématiquement, le moment à la fois de votre vie, de votre parcours, et aussi le lieu, et peut-être ce que vous avez présenté, vous revenait, ou votre mémoire n'était pas nécessairement activée par l'image du carton d'invitation ?
Ben, on en a parlé, donc ça a tout réactivé. Il y a certaines choses dont je ne me souviens pas très bien. La majorité, quand même, si, mais puis là, c'est vraiment que les cartons, il y en a quand même beaucoup, mais enfin, d'exposition personnelle, après le reste, il y a des choses qui m'échappaient un peu. Bon, ça, c'est sûr, avec le temps. Mais on a réussi à se remémorer, soit Michel se souvenait, soit voilà, donc on arrivait à se compléter sur ce qu'on avait à dire là-dessus, quoi. Mais c'était, à la fois, c'est un exercice pas facile, parce que des fois, on en disait trop. Donc il fallait vraiment simplifier, donc vraiment limiter les les petites ponctuations comme ça de paroles sur les éléments pour pas que ça lasse les gens. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment réussi, ce livre. Enfin, j'ai compris que c'était pas facile de faire une sorte d'inventaire comme ça. Il y a l'inventaire qui est quand même assez rationalisé dans sa mise en page, puis dans sa chronologie. Et puis d'un coup, après, il y a ces petites anecdotes qui arrivent, qui font un peu voyager, qui donnent une clé. Puis à la fin, donc, on a fait comme ça un tableau, de répertoire de toutes les expositions qui correspondent au carton, quoi, pour que vraiment que ce soit clair vis-à-vis des gens qui connaissent pas forcément bien mon travail et qui n'ont pas vu les expos.
Est-ce que pour vous ça a tout de suite été évident d'inviter les gens à voir votre travail, Claude Lévesque? Parce qu'il y a vraiment cette idée dans le carton d'invitation qui est, c'est une invitation à l'extérieur à venir rencontrer mon travail.
Ben, c'est un peu le rôle des invitations en règle générale. Donc après, c'est, enfin, il y a c'était, moi, je sans nostalgie, bon, c'est aujourd'hui, on est passé au il y a plus de carton, hein, tout ces newsletters, bon, c'est une information comme ça par mail. Donc maintenant, je me fatigue plus du tout à penser au format, au contenu. On donne une image, un visuel, comme on dit. Donc maintenant, c'est terminé, c'est révolu, ça. Il n'y avait plus l'idée de trouver un petit objet comme ça qui invitait effectivement les gens à l'exposition, que les gens pouvaient garder. Souvent, moi, je connais pas mal de mes fidèles, tout ça, qui conservaient tous les cartons, qui les collectionnaient. C'est une chose que les gens pouvaient faire. Allez, moi, j'en ai collectionné, j'en ai beaucoup de plats d'artistes, de plats d'événements qui m'ont intéressé, que j'ai le carton d'invitation, on le garde parce que c'est une mémoire d'un sujet, d'une exposition qui a particulièrement intéressé. Maintenant, à part de faire une sortie, on fait tellement de sorties de tout que ça n'a plus aucun sens, c'est fini, quoi. Après, c'est normal parce que bon, on économise le papier. Alors, je sais pas, finalement, parce que en plus, on est dans une surinformation où tout se confond, c'est assez compliqué, c'est un peu de l'entre-soi dans la forme de carton d'invitation par mail, parce que ça s'adresse au cercle déterminé de ceux qui fréquentent certains. Moi, je pense que c'est pas terrible, quoi. Enfin, ça a peut-être évolué, mais c'est pas terrible. Donc là, c'est vrai que cette partie-là, on en a mis quelques-uns quand même vers la fin sous cette forme-là, mais c'est plus les cartons d'invitation, quoi. C'est une info. Comme pour n'importe quoi, avec une image, bon, qui va donner une indication, mais ce sera pas pareil qu'un format, qu'un petit objet, qu'une sorte de ticket d'entrée, on va dire.
Le carton d'invitation, il portait la date de début de l'exposition et la date de fin. Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous préférez qu'une exposition commence ou vous préférez qu'une exposition se termine, Claude Lévesque?
Je m'en fous. Enfin, j'ai pas trop de... Après, il y a l'inauguration, le vernissage, c'est pas le moment, moi, qui m'excite le plus, loin de là. On rencontre des gens, c'est solennel, tout ça. Moi. Si je pouvais me passer le vernissage, je m'en passerais. Après, c'est bien de venir dans l'expo, comme ça, se promener, rencontrer des gens par hasard, c'est tellement bien, ça.
Vous faites encore souvent?
Oui, des fois, je le fais quand je peux revenir voir ce qui se passe. Des fois, faire des photos, oui, quand je peux, oui.
Et vous aimez bien qu'une exposition se termine ou vous vous en foutez aussi?
Bah, faut que ça se termine. Après, c'est un temps déterminé, donc ça va pas durer 10 ans. Hein, ça serait insupportable. Moi, j'aime bien après le temps éphémère, c'est-à-dire qu'il y a un projet, on le voit, puis après on passe à autre chose. C'est pas forcément nécessaire que ça s'allonge comme ça sur le temps. Après, ça, c'est la question du temps d'une exposition, le temps nécessaire pour que les gens puissent la voir, selon les périodes, voilà, enfin, c'est... Mais bon, après, il y a des gens qui reviennent plusieurs fois, bon, après, voilà, ça dépend. Hein.
Vous avez tout de suite voulu montrer votre travail? Ça a tout de suite été une évidence pour vous de montrer votre travail lorsque vous étiez un jeune artiste?
Non, parce que j'étais pas trop... je savais pas trop ce que je voulais. Au début, j'étais assez... réticent et très critique sur le statut de l'artiste, que je trouvais quand j'étais tout jeune, hein, que je trouvais assez à l'écart, quoi, dans son coin, enfin je trouvais ça un peu folklorique, donc j'étais pas je m'intéressais plus, enfin c'est bon je c'est 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 Voilà, ça c'est une époque dont j'ai souvent parlé, quoi. C'était les années 80, donc je m'intéressais, comme beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'activité, beaucoup de renouvellement avec la musique, la mode, la communication, enfin qu'on appelait pas aujourd'hui le mot communication est horrible, ça fait pas rêver, mais bon, les gens qui travaillaient sur l'image de marque, il y avait vraiment plein d'idées qui débordait de partout, et ces idées se croisaient, quoi. On n'était pas sectorisés ou comme ça, comme aujourd'hui, enfin dans le besoin de la réussite absolue et tout ça, quoi. Donc c'est une période qui m'a plutôt excité sur ce croisement, quoi. Faire des films, j'en ai fait un peu, enfin, il y a plusieurs choses qui m'intéressaient avant de vraiment me déterminer à, par l'envie de faire un peu de mise en scène, de assez autobiographique, enfin, de parcourir un peu mon univers et trouver une forme autour de ça, quoi. Ça m'a projeté, effectivement, dans le projet montré en exposition.
Est-ce que, si à l'époque vous étiez critique au départ de votre travail sur la place de l'artiste, vous diriez qu'aujourd'hui vous avez trouvé une place pour vous, pour faire votre travail artistique qui vous est plus confortable ou toujours pas ?
Oh ben si, c'est assez confortable, je vais pas raconter l'histoire. Bon. Voilà, enfin les choses sont assez... Enfin, j'ai une galerie qui travaille très bien pour moi, j'ai un formidable... collaborateur Élie Morin, enfin bon...
Ça pourrait ne pas vous empêcher d'être critique.
Ah bah je suis assez critique, hein, bah, je suis critique vis-à-vis du système, de ce qui m'entoure, enfin de manière plus générale. Mais après, dans une position mesurée, parce qu'à la fois c'est facile d'être critique quand on est parvenu comme ça à un accomplissement comme c'est mon cas, faut que je le reconnaisse, je vais pas faire l'artiste maudit et tout, ça c'est horrible, ça c'est...
D'ailleurs, un jour, de manière humoristique, je vous ai entendu dire, maintenant, je suis un artiste officiel. Je suis presque un artiste officiel.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Bah oui. Je suis pas dans ma mansarde, là, en train de chercher les idées, et puis le contact et tout ça. Enfin, aujourd'hui, bon. Enfin, tout le monde a sa place, de toute façon. Parce que l'art est, comme la culture en général, est essentiel pour la vie. Ça le devient de plus en plus. Hein. Quand on voit comme le monde évolue, c'est sûr que les gens ont besoin d'art. Donc, il faut aussi qu'il y ait des artistes, il faut aussi qu'il y ait des créateurs dans tous les domaines pour échanger. Parce que on crève sans ça, on crève très vite. Hein.
Vous la trouvez où votre nourriture artistique ? Comment vous répondez à votre besoin d'art aujourd'hui, Claude Lévesque ?
Ben après, je sais pas, j'observe, je suis quelqu'un de très contemplatif, donc j'observe toutes sortes de choses, des belles, des moches, des pénibles, des... Après, je regarde tout le temps, quoi. Un peu comme un enfant, sans évidemment, si, je peux pas dire sans a priori, c'est jamais comme ça, mais parce que je suis attiré par des choses que je m'explique pas toujours, à rien m'émerveille, des fois les petits détails qu'on passe à côté, je veux dire. Donc voilà, enfin il y a ça, et puis après il y a la position qu'on doit avoir dans un projet sur un thème d'exposition, sur un lieu, voilà, sur une thématique qu'on s'impose, ou bien répondre à une commande. Pour ce qui est, par exemple, d'une commande publique, en ce moment, on vient d'inaugurer le pont d'Issy les Moulineaux, là, avec cette ligne de paysage incandescent. Là, c'est une commande publique, bon, qui nécessite une forme d'approche d'un lieu urbain. Voilà. Il y a plein de raisons comme ça, très très différentes, de trouver des sujets, de trouver des sujets à représenter, quoi. Mais c'est multiple, je peux pas savoir ce que sera ma réponse à un projet dans quelques années, dans quelques mois même aussi parfois. Enfin, j'improvise pas, je prévois à l'avance, c'est nécessaire parce que bon, ça nécessite aussi du matériel, des savoir-faire, enfin, dans certains cas on peut pas improviser, quoi. Après, tous les sujets sont, enfin, tout ce que j'observe, tout ce que je traverse, voilà, enfin, ce qui peut me faire me créer du plaisir, mais aussi parfois de la douleur, tout ça nourrit. Enfin, ça, c'est un peu pour tout le monde comme ça, quoi.
Et entre dans votre travail et circule, quoi.
Ouais.
Vous savez, il y a une chose merveilleuse d'être artiste, c'est qu'on ne vit pas, on montre la vie. Si on est déprimé, on montre la dépression. Et donc, on crée une distance entre soi-même et l'objet de son malheur. Et donc, c'est une chance énorme. Et je pense même que ce que je dis est vrai et faux. Mais je pense même que plus on travaille, moins on existe. J'avais cette théorie plaisanterie stupide, c'est que quand on est vieux et artiste, on devient totalement son œuvre. Et que quand on regarde un Giacometti, il ressemble exactement à Giacometti. Que quand on regarde un Francis Bacon, ça ressemble vraiment à Francis Bacon. Et que moi, je ressemble de plus en plus à une boîte de biscuits, parce que j'ai beaucoup utilisé les boîtes de biscuits. Et donc, on devient son œuvre, et on n'est plus que son œuvre. Et donc, c'est une facilité, parce qu'on n'a plus à vivre, puisqu'on n'est plus que son œuvre. Donc, on montre la vie, voilà.
Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Claude Lévesque.
Claude Lévesque, on parlait de l'art qu'on regarde, du besoin d'art, et on entend à l'instant une archive récente de Christian Boltanski donnant une masterclass pour France Culture en 2017, qui dit plusieurs choses. Plus on travaille, moins on existe, plus on vieillit et on devient plus que son œuvre. Il se trouve que j'ai devant moi des choses qui retracent en tout cas, l'état de votre œuvre actuelle, Claude Lévesque, une grande monographie, un très beau livre qui s'appelle Tombeau, et puis ce catalogue raisonné des cartons d'invitation. Est-ce que vous diriez, comme Boltanski, que plus on vieillit, plus on fait corps avec son œuvre ?
Ce qu'il dit est très clairvoyant. Hein. C'est un immense artiste, hein. C'est quelqu'un qui a été majeur pour mon développement, mon envie de faire de l'art, hein, pour dire des choses comme ça. Bon, je trouve vraiment à la fois tendu, suspendu. Sa comparaison à une boîte à biscuits est quand même...
Je deviens une boîte à biscuits, j'en ai tellement fait. Ouais.
Moi, je pourrais dire, pour lui répondre, que je suis un candélabre avec des moucherons autour, par exemple.
Vous devenez ça. Quand vous observez dans des catalogues monographiques ou dans ces différents livres qui retracent votre parcours artistique, Claude Lévesque, votre propre œuvre, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça produit comme effet ?
Je sais pas, j'ai pas trop de mesure de ça. Bon, je me rends compte que mon travail a évolué, est passé au travers de différents propos, a évolué ou a stagné. J'ai pas trop d'état d'âme, à vrai dire, là-dessus.
Mais vous regardez ça comme quelque chose d'extérieur?
Ouais, assez, oui. Après, j'ai une grosse monographie qui est sortie, très complète, très bien faite, très, très, très dynamique, qui me convient vraiment. Après, j'arrive pas à faire un point, parce que je pense qu'il y a encore un peu de temps, ou pas, ou plus de temps du tout, d'ailleurs, pour réaliser les choses. Sans ça, c'est l'avenir qui va décider. Après, c'est plus le livre de Benoît Viguier qui me donne ce recul. Parce que lui, il a su jouer au travers d'un choix d'œuvre, de bribes de textes, de philosophes, d'écrivains qui sont très justes et qui, moi, m'ont aidé à me donner un éclairage sur mon travail.
Donc, parce que peut-être ça a été fait un peu en dehors de vous, d'une certaine manière, ce livre-là.
Oui, oui, c'était son projet à lui, projet dont il m'a soumis, dont il m'a parlé, m'a montré après l'évolution, mais je suis absolument pas intervenu.
Est-ce qu'on peut en rappeler le principe, peut-être, pour les auditeurs et les auditrices?
Le principe, c'est qu'il a fait un choix d'œuvres qui sont en noir et blanc, comme le texte, Et il a mis en regard de ses œuvres des citations de Nietzsche, Rimbaud, Arthur Cravan,
Giorgio Agamben, Emily Dickinson,
Marie-Laure Hilke, enfin. Et à chaque fois, donc, il a choisi vraiment des bribes de texte qui sont un prolongement, un écho à une œuvre choisie. Et aucune redondance, aucun effet de vouloir faire une preuve de citationnelle sur l'œuvre en regard, quoi. C'est un voyage. Moi, je trouve que c'est un vrai voyage, tout ce livre. Et je trouve que ça donne un éclairage. Après, il y a plein de gens qui écrivent des très bons textes. Dans le catalogue monographique de Camille Mulhour, des excellents textes de trois auteurs, là. Mais là, le simple jeu, qui n'est pas une chose simple, parce qu'il faut quand même trouver des textes qui vont bien. Parce qu'il suffirait de peu de choses pour que ça dérègle le système et devienne vraiment lourd. Et cette succession comme ça de citations, de fragments de textes, a vraiment créé un voyage. Et créé un voyage pour moi aussi sur mon propre travail. Et j'arrête pas de le regarder sans arrêt. Je l'emmène avec moi. Et ça me donne un peu de recul. Ça me fait parcourir les choses.
Et alors vous vous dites quoi? Vous vous dites il y a des choses qui vous renseignent sur votre propre travail,
oui.
Par exemple?
Oui, bien sûr.
À quel endroit?
Sur la perception qu'on en a, parce que moi je le fais avec certaines désinvoltures souvent même. Hein. Ça me vient comme ça en deux minutes. Après je réalise le truc. Ou alors je vois un espace et je coordonne dedans quelques éléments. Je vais pas passer trois mois, enfin ça dépend des projets, mais à réfléchir, c'est souvent assez. Et là du coup, quand il y a une réflexion posée de cette manière-là, donc ça me donne des indications que j'ai pas forcément maîtrisées.
Et vous avez l'impression qu'il y a quoi comme des sortes de lignes de fond à votre travail, des choses que lui il a senties.
Ouais, il a senti, mais bien d'autres gens ont senti autre chose. C'est important d'avoir les avis comme ça des uns des autres, parce que les perceptions. Et ça, moi, ça me ravit d'ailleurs de me rendre compte que mon travail souvent suscite de toutes sortes de d'interrogations, très très diverses, parfois opposées. Donc je suis plutôt ravi de ça, parce que il semblerait que ce soit assez ouvert, que ce soit pas quelque chose de complètement fermé dans un dogme ou une démonstration comme ça qui serait arrêtée dans le temps. Et là le fait de jouer comme ça avec ces citations qui sont pour la plupart connues, ça joue. Ce texte, il fait corps avec le projet.
D'ailleurs, moi, je trouve que ça ouvre encore, en fait. C'est comme si ça ouvrait encore d'autres portes. Par exemple, j'étais assez surprise de trouver les Actes des Apôtres. Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous encore ici. C'est vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment.
Après, c'est Benoît Viguier, quelqu'un qui connaît très très bien mon travail. C'est quelqu'un qui a une grande culture. Du texte, de la littérature, de la philosophie. Donc il avait matière à s'amuser avec tous ces éléments.
Quand vous avez découvert ce livre-là, je reprends ma question de l'intérieur et de l'extérieur, mais vous arriviez à vous positionner, Claude Lévesque, comme quoi? Comme l'auteur de tout ce que vous voyez, de toutes les images que vous voyez, comme un spectateur qui prenait connaissance de son œuvre autrement. Qu'est-ce que ça fait de voir son œuvre de cette manière-là?
J'ai du mal à exprimer les choses parce que je me sens pas auteur, à me dire c'est moi qui a fait ça. Des fois, je suis un peu étonné. Des fois, je trouve que les choses sont ratées. Après, je me dis, finalement, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Il y a des tas de questions que je me pose comme ça. Mais après, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Non, non. Moi, je vis les choses assez intensément quand je les fais. Le projet, la mise en œuvre, on fait des photos.
Ça vous rend heureux?
Ah, oui, bien sûr, parce que j'ai beaucoup de plaisir. Le plaisir est une chose très importante, même si des fois il y a des contraintes, c'est difficile à surmonter, tout ça. Moi, je garde le plaisir intact. Enfin, j'ai ce sentiment-là. Sans ça, ce serait difficile de faire les choses. Ce serait très laborieux et assez pénible pour les autres. C'est pour ça que quand je dis que je fais les choses avec une certaine légèreté, c'est que je passe d'un projet, je vais vers un autre. Bon, après, il y en a certains qui sont réussis, d'autres qui le sont moins, d'autres sont ratés, voilà. Mais ça va assez vite. Hein. Mais il y a aussi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a aussi une matière comme ça, du langage, un matériau du langage comme ça qui est un peu permanent. Quoi. Les choses changent pas tant que ça, même si les objets, les sujets changent, la lumière, le son, enfin tout ce qui suscite les différentes émotions. En fait, c'est toujours un peu, on est un peu dans les mêmes scénarisations, mais avec des sujets différents.
Parmi le choix de texte opéré par Benoît Viguier, il y a Arthur Rimbaud et on va l'entendre dit ici par Hubert-Félix Thiéphen.
À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires. La littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution des mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles, A, noir, E, blanc, I, rouge, O, bleu, U, vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne, et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude, j'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges.
C'est en effet extrêmement bien senti par Benoît Viguier d'avoir été chercher ce texte d'Arthur Rimbaud et c'est bien senti de le faire entendre par Hubert-Félix Thiéphen, Claude Lévesque, parce qu'il y a plein de choses en effet quand on entend ce texte de Rimbaud qui résonne avec votre œuvre, je pense à l'association
des œuvres de tout le monde, hein, parce que c'est vraiment la question de la création.
Ouais.
La question aussi qu'on n'est pas sur des sujets toujours... à valeur comme ça prestigieuse, la banalité des fois la plus
crasse
et compte enfin la plus triviale, la plus tenue à pas grand chose, donc ça c'est, oui, ça parle de tout ça quoi, donc tous les sujets sont possibles et puis après il y a la façon dont on joue avec, dont on triture toutes ces réalités pour en sortir quelque chose. Ça, oui, ça résume vraiment cette question en général de la création, quoi, de l'état du créateur face au langage qu'il essaie d'établir, quoi, avec toutes les incertitudes et qui échappe souvent aux valeurs, parce que quand les choses sont déterminées, sont stéréotypées, c'est là où c'est pas bon, quoi.
Et là où c'est bon, c'est quand, si on suit le texte de Rimbaud, quand ça s'adresse au sens, à la sensorialité, quand ça s'adresse à la nuit en nous. Souvent, vous avez parlé tout à l'heure de mettre en scène, mais vous utilisez aussi très souvent le mot d'expérience, que vous proposez des expériences aux personnes qui viennent voir votre travail, Claude Lévesque.
Oui, c'est important parce que ma propre expérience est aussi l'expérience des autres. Et c'est vrai que c'est important de voir aussi comment ces expériences s'échangent, quand c'est faisable, bon, parfois par une provocation des sens, quelque chose qui va activer les sensations, l'émotion, de différentes manières. Des fois d'une manière merveilleuse ou complètement répulsive ou interrogative ou sans issue. Enfin,
par exemple, vous partez.
Ça, c'est ce qui m'intéresse. Après, si c'est. Mais après, j'aime bien aussi des choses, comme souvent, des fois, par exemple, la question des néons, on se pose la phrase néon, comme ça, on tourne autour de quelque chose, d'un lieu commun de langage, quelque chose qui appartient à tout le monde, comme un néon posé sur un objet, qui est en même temps un objet de l'archéologie de la vie, enfin de ce qui a fait partie de différentes époques, quoi, enfin d'objets usuels ou autres, ou affectifs. Et voilà, donc après, toutes ces choses-là font sens parce qu'elles appartiennent à toutes les mémoires, en fait, surtout celles qui s'inscrivent un peu dans ma génération, mais ça peut être des gens plus âgés comme des gens jeunes. Voilà, c'est un peu le cheminement d'une vie, et souvent, c'est ce cheminement-là, même s'il est très complexe, il a des résonances comme ça qui se ressemblent.
Tout à l'heure, vous avez dit essayer de voir si mon expérience peut se partager. Ça veut dire que dans votre travail artistique, il y a toujours quelque chose qui serait de l'ordre de moi, j'ai fait cette expérience-là, j'ai senti ça, et je vais voir si qu'est-ce que ça fait si je propose aux autres qu'ils le sentent aussi. Ce serait ça la traduction simple.
Ben oui, c'est normal. Enfin, je veux dire que tout créateur, enfin moi, un créateur qui n'échange pas, il n'existe pas. Enfin, un créateur peut exister que s'il échange, si se passe quelque chose avec un public, avec des situations, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, et je crois pas du tout au créateur comme ça enfermé entre quatre murs et tout. Après, c'est risqué tout ça.
C'est risqué le partage. L'échange.
Oui, bien sûr, c'est parce qu'il peut y avoir aussi le partage, ça suscite aussi des incompréhensions, des situations de blocage, d'impasse, voire des réactions douloureuses, de gens qui s'opposent, ou qui ne comprennent pas, ou qui peuvent être violents, enfin, sur la question des valeurs morales, des valeurs de langage, enfin, ça c'est normal, enfin, c'est aussi l'artiste, il oblige obligatoirement, s'il existe, avec son propre travail, dans sa sincérité, il est confronté à ça, et c'est normal. S'il n'est pas, c'est qu'il y a un problème. Ou alors il est dans la démagogie, ou dans le truc facile, médiatique, de base.
C'est plutôt bon signe si ça gratte un peu, quoi.
Ben oui, bien sûr, bien sûr. Après, des fois, on n'a pas envie de le voir, on détourne la tête, c'est fatigant, des fois, parfois aussi, des situations d'incompréhension. Puis, les situations, il n'y en a pas tant que ça, des situations d'incompréhension. Parce qu'en général, les gens cherchent plus à flatter l'artiste, qu'à lui cracher dessus, quoi. Et puis, l'artiste est content qu'on le flatte, enfin, voilà. Enfin, c'est aussi ce qui se passe dans le milieu dans le rapport à l'art, quoi. On peut faire des distinctions de ce qui est sincère ou pas, mais bon, voilà, enfin, les gens, soit ils sont indifférents, soit ils réagissent de différentes manières. Mais si, enfin, aujourd'hui, maintenant, les gens se lâchent, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Avant, les gens disaient pas les choses, savaient pas comment les dire. Maintenant, avec tous les gens, maintenant, ils ont une porte ouverte sur le langage, le plus dur. Avant, ils osaient pas. Alors, ben, ça amène effectivement des choses qui sont pas confortables et des états d'incompréhension. Mais on est quand même assez fermé. On est quand même dans un milieu assez fermé, extrêmement protégé. Faut être réel. Hein. On n'est pas là dans l'arène des fauves, donc les situations très inconfortables, c'est plutôt assez rare, quoi. Mais ça existe. Moi, je fréquente des gens, je fréquente pas que des artistes, que des gens du milieu de l'art et tout ça, et parfois il y a des réactions, des gens qui me disent vraiment ce qu'ils pensent.
Ça vous fait du bien?
Bah, ça dépend, non, pas forcément.
Quand j'écoute ce que l'on appelle de la musique, il me semble que quelqu'un parle, qu'il parle de ses sentiments ou de ses conceptions sur les relations.
traffic, the sound of traffic.
Mais quand j'entends la rue, le bruit du trafic dans la rue, ici, sur la 6e avenue par exemple,
I don't have the feeling
je n'ai pas du tout l'impression que quelqu'un est en train de parler.
I have the feeling that,
j'ai plutôt l'impression que le son est en train d'agir.
Sound is acting. And I love
et j'adore
the activity of sound.
L'activité du son.
What it does is it gets louder and quieter.
Il devient puissant
and
ou calme,
higher and lower,
plus haut ou plus bas,
and it gets longer and shorter.
Et devient plus long
it does all those
et plus court.
Which I've...
Il fait toutes ces choses.
I'm completely satisfied
je suis
with
tout
that.
À fait satisfait avec ça.
To talk to me.
Je n'ai pas besoin que le son me parle.
We don't see much
on ne voit pas beaucoup de différence entre le temps et l'espace.
We don't know where one begins
on
and
sait
the
pas
other
où l'un
stops.
Commence et où l'autre s'arrête.
So that most of the arts we think of as being in time.
On pense souvent à l'art compris dans un temps et dans un espace.
People expect listening to be more than listening.
Les gens s'imaginent qu'écouter signifie plus que simplement écouter. Et donc ils parlent parfois d'une écoute intérieure ou de la signification du son.
When I talk about music,
quand je parle de musique, il arrive enfin à l'esprit des gens que je parle de son, qui ne veut rien dire. Ce n'est pas un son intérieur, mais juste extérieur. Et les gens qui me comprennent finalement disent, vous voulez dire que c'est juste du son ? Sous-entendant que ce qui est seulement du son est inutile, alors que j'aime les sons, juste comme ils sont.
Claude Lévesque, c'est la voix de John Cage qui dit « J'ai pas besoin que le son me parle. Moi, j'aime les sons comme ça, comme ils sont. » Et je n'ai pas besoin qu'ils me disent davantage. C'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, que vous avez beaucoup utilisé sous différentes formes. Est-ce que vous seriez comme lui, dire que écouter, c'est juste écouter et que vous n'avez pas besoin que le son vous dise davantage que ce qu'il est?
Enfin, après, moi, c'est pas du tout le même secteur de recherche de cet immense musicien que j'adore et tout. On peut pas comparer ce qu'il est pas. Moi, j'utilise pas les sons comme un musicien. J'utilise pas les sons comme. Enfin, c'est un élément de la narration qui est soit, enfin, dans le prolongement d'un récit, comme l'œuvre que j'ai réalisée avec la voix de Catherine Deneuve sur Mon ami la rose, où dans la galerie était suspendue une silhouette comme ça de rose très grande et avec
ça.
Oui, avec la voix de Catherine Deneuve, avec une voix un peu fragile, un peu maladroite comme ça, qui chantait. Comme voilà, c'est le son que je peux utiliser. Là, je pars d'une chanson connue que je diffuse, mais parfois le son peut être aussi une vibration,
une déflagration.
Déflagration. Enfin, il y a voilà, c'est bah, moi pour moi le son, ça fait partie de l'espace, donc. Donc j'utilise pas systématiquement parce que parfois il y a même pas besoin de son, l'environnement suffit. Mais j'ai pas de théorie sur le son, d'abord parce que je suis pas musicien et que je développe rien qui soit de cet ordre-là. C'est un élément comme la lumière, mais je suis pas éclairagiste non plus. La lumière, j'utilise vraiment dans une limite de ce que je peux maîtriser et de ce que je peux métamorphoser avec ça, quoi. Donc voilà,
chaque fois, ce sont des outils pour créer de l'espace et par cet espace, créer de la narration.
Oui, bien sûr, bien sûr. La narration, elle se fait aussi par le son, par la lumière. Enfin, la narration, c'est un peu la forme que va avoir le récit, ce qu'il va raconter, parce qu'il y aura quelque chose qui va être souvent, pour ce qui me concerne, quelque chose d'autobiographique, parce que c'est aussi ma sensibilité qui intervient dans ce récit. Donc forcément, ça a ce contenu, et ça a des fois volontairement ce contenu dans ce que j'ai à dire et dans le regard que je porte sur mon existence.
Vous avez tout à l'heure, vous avez dit les gens, ils s'approchent de plus en plus du langage, et vous, les mots, le langage, vous les avez utilisés parfois même, vous écrivez des textes. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un outil au même titre que la lumière, l'espace, le son, les mots ? Ou est-ce que c'est un outil un peu différent?
C'est un peu prétentieux de dire ça. Après, moi, j'écris assez librement. J'adore écrire. Il y a des périodes où je le fais. Des fois, c'est des textes complètement régressifs.
Il y a un texte, par exemple, le livre que vous consacrez à Nevers encore avec Catherine Deneuve. Il y a plein de textes. On sent qu'il y a une aisance pour vous à cet endroit-là.
Ouais, ça j'aime bien. Puis là, c'était vraiment un. C'était un livre qui rassemblait beaucoup de textes que j'ai écrits depuis assez longtemps et qui faisait un point sur ma vie dans la Nièvre, mon enfance, la vie de mes parents, enfin tout ça. Et puis après le regard de Catherine Deneuve, comme ça, cette actrice comme ça que j'invitais à un échange justement de regard. Voilà, j'avais envie de ça et tout. Ça c'est vraiment c'est de l'observation. Pour les projets, souvent je suis dans le train, je suis en déplacement à l'hôtel ou je ne sais où, je prends des notes, je prends énormément de notes et j'écris beaucoup. Alors des fois c'est un texte peut devenir un texte, mais des fois il peut être le départ d'un projet, une sensation comme ça qui va être après développée dans un projet. Après, j'adore écrire, mais quand j'écris, je me considère pas une seconde écrivain ou poète ou quoi que ce soit. Des fois, c'est même dans un exercice de régression, parce que j'aime bien écrire des choses que je maîtrise même pas, je sais même pas ce que ça veut dire.
Comme une écriture après, automatique, un peu?
Ouais, si on veut, enfin. Des fois, des petites choses qu'on écrit en téléphonant, ou qu'on griffonne, comme ça, ou une sensation, mais qu'on n'a pas envie de dire pour ce qu'elle est, mais qu'on va perturber, puis qui a plus aucun sens. Moi, j'aime bien m'amuser à ça, voilà. Mais sans aucune, enfin, j'ai pas de velléité là-dessus. Voilà, je le fais à un moment. En ce moment, je le fais pas, par exemple. Bon, puis après, je vais avoir envie. Je fais des collages au même titre. J'adore coller les bouts de trucs de journaux. J'en montre. Il y en a d'autres que je montre pas. Enfin, ça c'est vraiment l'espèce d'espace de liberté. Je suis pas en train de faire un dispositif dans une galerie, dans un musée ou faire une commande publique avec toute la machine qui se met en route. Là, je fais ça pour m'amuser. Des fois, le dimanche, quand j'ai vraiment pas envie de me retremper dans mes dossiers, dans mes trucs. Et là, je vais me mettre à faire un collage. Je vais certainement m'en faire ce week-end, puisque là, je vais profiter du pont pour m'amuser à coller des choses ou peut-être à écrire des choses. Mais c'est important. Alors après, il y a des moments avec du recul où je peux décider de montrer certaines choses. C'est ce qu'ont décidé les graphistes du livre. De la galerie Kamel Menour, de montrer, voilà. Moi, on leur a donné beaucoup de choses en vrac. Et à partir de ça, ils ont fait des choix. Donc, j'ai montré des choses que je montre assez rarement.
C'est plus léger que le reste pour vous, l'écriture.
Hein?
C'est plus léger que le reste.
Ah oui, c'est léger. Là, je fais ce que j'ai envie pour m'amuser dans les limites de ce que c'est. Après, si c'est laborieux. C'était laborieux de faire le livre Nevers-Letlovine. Parce que d'un coup, il a fallu que je retravaille tous les textes, que je leur donne une unité comme ça dans l'assemblage, que je donne une forme au livre. Ça parlait de ma vie à Nevers, mes parents.
Très précisément, ouais.
D'un seul coup, il a fallu scénariser. Ça a été laborieux. J'ai mis 2 ans à le constituer. Les textes, c'est rien. J'écrivais ça dans le 35 minutes. Mais après, pour leur donner vie et puis faire qu'ils puissent se relayer, avec des images, sans mettre trop d'images, sans donner trop d'indications, et pour faire que le lieu, c'est un lieu précis, c'est une géographie, c'est la Nièvre, mais ça pourrait être ailleurs aussi, enfin, puis c'est la vie, et puis avec des images personnelles, des images de famille, des images de mon enfance, de mes parents, du vieillissement de mes parents, de leur disparition, enfin, tout ça. Après, il y avait ce contenu, quoi, qui me poussait à le faire, parce que j'ai vraiment fait ce livre qui comptait énormément pour moi. C'est vraiment, je l'ai fait, c'est un exercice que je me suis donné au moment où là, j'ai beaucoup souffert de la disparition de mes parents, et c'est vraiment ce livre à partir de ce moment-là. Ça m'a poussé. C'était vraiment, j'avais besoin de constituer ce truc-là, à ce moment-là.
Comme un geste de trace?
À cause de cette fin de vie de mes parents, de la fin d'une période comme ça, d'un marquage comme ça aussi de ma propre existence, un besoin de faire ça. Mais après, je peux pas trop savoir. Je sais que je l'ai fait, que c'était vraiment du travail, ça. Pas d'écrire les textes, mais d'assembler tous les éléments qui scénarisent le livre. Mais après, voilà, j'ai eu besoin de le faire. C'est tout. C'est pas une commande. C'est pas un exercice non plus. C'est venu comme ça.
J'ai l'impression que c'est un objet que vous aimez bien, le livre.
Ouais, ça, j'adore le livre. Moi, je trouve ça un espace, c'est formidable. On tourne les pages. J'adore les livres. C'est... Maintenant, je vais pas paraître vieux jeu, tout ça. Le computer, tout ça, c'est vraiment, c'est inerte, quoi. C'est un matériau. Enfin, ça n'a rien à voir avec du papier, avec des images, avec. Moi je comprends même pas les gens qui arrivent à lire de lire un livre, un roman
sur des tablettes.
Sur une tablette, ça me paraît complètement impossible. Sauf si on est vraiment obligé pour lire un texte dans le train, je sais pas quoi. Mais tenir un livre, revenir en arrière, non mais l'exercice sur l'ordinateur, c'est...
On a très envie et très facilement envie de se joindre à la chorale qui chante Claude Lévesque, qui interprète une chanson de Françoise Hardy. Rendez-vous d'automne. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre, dans quel espace justement résonne cette chanson?
Ben là, c'était un projet que j'avais fait à la Maison Éclusière pour le printemps de septembre à Toulouse, dans un lieu assez particulier, très très particulier, avec un dispositif que j'aurais du mal à remontrer. Et il y avait dans ce dispositif, il y avait un bus, un gros bus, qu'un monsieur d'une compagnie m'avait prêté gentiment, qui était un magnifique bus comme ça, qui était dans, qu'on a rentré dans un grand espace. Et à l'intérieur, ça diffusait une chorale, la chorale de la maison de retraite où ma maman chantait. Et c'est moi qui les a fait chanter cette chanson, qu'ils ont appris pendant un bon bout de temps pour la connaître par cœur. Et donc elle était diffusée dans le bus et avec une qualité de son, comme souvent je fais, comme j'ai fait avec Catherine Deneuve qui chante, avec ma mère plusieurs fois, qui donne vraiment l'impression que la chorale elle est dans le bus. Il y a personne, les gens sont s'asseyaient dans les sièges. C'était très troublant d'avoir cette espèce d'image fantôme d'une chorale qui n'existe pas, mais qui est présente par les voix.
D'autant avec cette espèce de fantôme circulaire, parce que évidemment, quand on pense à un bus, on pense potentiellement à un transport d'enfants. En tout cas, c'est vers ça, moi, que va mon imaginaire. D'un seul coup, ben, on a cette espèce de Tout à l'heure, vous disiez les corps vieillissants, mais on sait que les corps vieillissants et les âmes vieillissantes, parfois, font des chemins presque vers l'enfance ou la toute petite enfance. Et il y a vraiment quelque chose de très troublant dans cette installation de la Clos de l'Évêque. Ils
disparaissent, en fait, aussi. Hein.
Comment ?
C'est des corps qui disparaissent, ouais. Aussi. Ouais, c'est fou, parce que je repensais en écoutant ça, comment Françoise Hardy, comment cette chanteuse extraordinaire a pu, comme ça, éveiller à ce point-là... Le tracé d'une vie, quoi. Mais c'est incroyable ce que ça m'évoque, quoi. J'adore cette chanteuse, évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment un récit qui me colle à la peau, quoi.
Cette chanson-là.
Toutes ces chansons, pardon?
Cette chanson-là ou toutes les chansons?
Toutes les chansons. Mon ami Larose, c'est une merveille. Après, Ma jeunesse fout le camp. Enfin, toutes ces chansons des années 60, surtout. Enfin, qui ont vraiment une résonance. Voilà, enfin bon, après c'est le temps passé, c'est lié au temps passé, une sorte de
nostalgie, un petit
nostalgie,
peu
nostalgie, bien que voilà, bon, après c'est le temps passé, c'est ça, mais après ce que ça véhicule comme ça dans le contenu du vécu et chez cette chanteuse est très particulier à cause de sa voix, à cause de sa musique. C'est quand même très élaboré, Françoise Hardy, hein. C'est pas la petite chanteuse yéyé. Enfin, pour une Française, c'était nettement supérieur.
Merci beaucoup, Claude Lévesque. Alors, vous étiez là pour notre plaisir, celui des auditrices et des auditeurs, mais aussi en raison de la publication de ce catalogue raisonné des carnets d'invitation. C'est publié donc chez Marvel Rue Visconti. C'est visible à la galerie Mouvement jusqu'au 17 novembre à Paris. Et c'est co-signé avec Michel Nouritsani, ce très beau livre Tombeau, par Benoît Viguier aux éditions Analogue, et La Grande Monographie, paru chez Kamel Menour. Merci beaucoup.
Merci.
On est bien peu de choses. Et mon ami Larose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille.
Au son ce soir, c'était Jacques Hubert, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Romain de Bec de Lièvre sera au micro. Quand vous voulez, sur franceculture.fr pour le podcast et la réécoute. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor, Lou Quevauvilliers et Anna Baron qui m'ont aidé à penser et préparer cette émission. Très belle soirée sur France Culture.
Comme une lanterne, une cave. Mûrirait-elle cru vainqueur, Aïbône, Sauterne, grave. Ton rire éclaire mon vieux cœur. Ta voix claironne dans mon âme, tel un signal d'aller au feu. De tes yeux en effet tout flamme. On y va, sacré nom de Dieu. Ta voix claironne dans mon âme. Ton geste et le reste, odeur et fraîcheur et chaleur m'insinue. Reste, si j'y reste en ton lit mangeur, ta gorge, tes hanches, ton geste.